Vous écoutez France Culture.
Jeux de société de David Lodge. Dans une adaptation de Juliette Eman. 10e et dernier épisode.
Le nouveau trimestre débuta par une période de beau temps. Les étudiants folâtraient sur les pelouses du campus, les jeunes filles en robe d'été claire semblaient s'épanouir comme des crocus sous la chaleur du soleil. Ayant travaillé à son livre jusqu'à la dernière minute des vacances, Robin Penrose se trouva moins bien préparé que d'habitude pour ses cours et la première semaine fut mouvementée. Elle dut veiller tard le soir, car il était urgent qu'elle se remît en tête l'intrigue de la foire aux vanités, le portrait de Dorian Gray, la Terre vaine et 1984, textes sur lesquels elle s'était engagée imprudemment à faire des séminaires concentrés sur une semaine, sans compter qu'il lui fallait réviser son cours sur Virginia Woolf et lire pour la première fois de sa vie « Toit pointu » de Dorothy Richardson qu'elle avait mis au programme de ses séminaires de littérature féminine. Ce travail écrasant lui permit d'oublier Charles, avec qui elle avait rompu quelques semaines auparavant. Pour ce qui était de Vic Wilcox, sa fuite précipitée de Remidge le mois d'avant semblait avoir eu l'effet désiré. Il avait cessé de la harceler de lettres et de coups de téléphone. Robin se trouva soudain libéré des assiduités des deux hommes qui avaient occupé une place dans sa vie affective dans un passé récent ou lointain. Elle était enfin libre de disposer d'elle-même comme elle voulait. Certes, cette prise de conscience ne provoqua pas chez elle tous les effets bénéfiques qu'elle eût pu escompter. Elle se sentait bizarrement un peu seule et abandonnée. Le samedi lui offrit un divertissement mondain qui fut le bienvenu. Un ami de Philippe Swallow, le professeur Maurice Zapp, qui venait des États-Unis, avait fait une brève escale à Remidge avant de repartir vers d'autres horizons. Les Swallow donnaient en son honneur une soirée à laquelle Robin avait été conviée. Elle connaissait bien les publications de cet homme à la réputation internationale et était curieuse de faire sa connaissance.
Entrez, Robin. Je vais vous présenter à Maurice. Maurice, je te présente Robin Penrose, la fille dont je te parlais.
Tu dis fille, Philippe? Fille? Il y a des hommes qui ont été castrés pour moins que ça à l'université de Fourier. Tu veux dire femme? Ou dame, qu'est-ce que vous préférez?
Personne, ça me va.
Personne, très bien. Tu n'offres pas quelque chose à boire à cette personne, Philippe?
Si, bien sûr. Rouge ou blanc?
Pourquoi tu ne lui donnes pas une vraie boisson?
Bien sûr,
du blanc, ça m'ira très bien.
Je reviens.
Je sais toujours quand je suis en Angleterre, parce que quand on va à une soirée, la première chose qu'on vous dit, c'est rouge ou blanc. Autrefois, je croyais que c'était une sorte de mot de passe, comme si la guerre des roses n'était peut-être pas encore terminée.
Vous restez ici pour quelque temps?
Je pars pour Dubrovnik demain. Après, je vais à Vienne, à Genève et à Nice. C'est pour des congrès. Vous êtes allé à des congrès internationaux dernièrement?
Oh, je ne pourrais pas me permettre d'y aller. Nos subventions pour aller à l'étranger ont été réduites à leur plus simple expression.
Réduction, réduction, réduction. Vous n'avez tous que ce mot à la bouche dans ce pays.
Et c'est ça la vie dans les universités anglaises ces temps-ci, Maurice. Tenez, Robin.
Merci.
Ah, je passe mon temps à me battre dans des commissions pour décider comment faire face à toutes ces réductions. Je n'ai pas lu un seul livre depuis des mois. Quant à en écrire un, n'en parlons pas.
Moi, si.
Lou ou écrit?
Écrit. Enfin, aux trois quarts à peu près.
Ah, Robin, on a tous un peu honte en face de vous. Qu'allons-nous faire sans vous?
Je vous laisse. Vous quittez Rummage, Robin?
Normalement, oui. Voilà pourquoi ce livre est très important pour moi. Si par hasard un poste venait à se libérer dans les 12 mois à venir, j'aurais de bonnes chances de l'obtenir avec deux livres à mon actif.
Vous avez raison. Et de quoi traite-t-il ce livre?
Il parle de la représentation de la femme dans le roman du 19e siècle.
Intéressant. Je suis lecteur pour les presses universitaires d'Euphoria. Envoyez-moi votre manuscrit et j'y jetterai un coup d'œil.
C'est très gentil de votre part. Mais j'ai déjà signé un contrat avec mes éditeurs anglais qui ont distribué mon premier livre aux États-Unis, celui sur le roman industriel.
Si l'université d'Euphoria fait une offre pour les droits aux États-Unis, ça ne peut être que leur intérêt d'accepter. Bien sûr, il est possible que je n'aime pas le livre. Mais vous me faites l'impression d'être une fille astucieuse.
Une personne,
excusez-moi.
Comment puis-je vous faire passer mon manuscrit?
Pouvez-vous le laisser ici demain matin avant 8h30? Je prends la navette de 9h45 pour Heathrow.
Robin veilla toute la nuit pour tirer le manuscrit de son livre. Car même en qualité brouillon, il fallut des heures à la machine pour recracher les 60 000 mots. Si bien qu'il était près de 8h15 du matin lorsqu'elle termina son travail.
Reste-toi, Maurice, ton taxi t'attend. Seigneur Dieu, Robin, que faites-vous ici à une heure aussi matinale?
Le professeur Zapp hier soir m'a gentiment offert de jeter un coup d'œil à mon manuscrit.
Hey Robin, comment ça va?
Voilà le manuscrit.
Ah, formidable. Ici. Je vais le lire dès que je pourrai. S'il me plaît, je vous téléphonerai. Sinon, je vous le renverrai par la poste. Avez-vous remarqué que dans notre monde moderne, les bonnes nouvelles arrivent par le téléphone et les mauvaises par la poste?
Maintenant que vous le dites. Oh,
Maurice, le taxi, le compteur tourne.
Ok.
Thank you.
Bye.
Vous voulez rentrer prendre une tasse de café, Robin?
Non, merci. J'ai veillé toute la nuit pour pouvoir imprimer mon livre. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est retrouver mon lit.
Comme vous voulez.
Et votre rapport, il avance?
Mon rapport?
Sur le système de stage.
Ah, ça. J'ai pris du retard, je dois dire. J'ai passé tout mon temps à travailler sur mon livre, vous comprenez?
Oui. Vous feriez aussi bien de le laisser de côté, en attendant l'étape suivante.
Robin était trop fatigué pour essayer de comprendre ce que Philippe Swallow avait voulu dire par cette formule énigmatique. Ce ne fut qu'à son arrivée à l'université le lendemain matin, en voyant Vic Wilcox parler avec Philippe Swallow devant le bureau du département d'anglais, qu'elle se rappela les paroles de ce dernier.
Ça m'étonne parce que c'est vraiment quelqu'un qui est toujours...
Ah, vous voilà! J'ai trouvé votre stagiaire qui attendait à votre porte errant tristement comme une âme en peine. Apparemment, il est ici depuis 9 heures.
Salut, Robin.
Que voulez-vous dire, mon stagiaire?
Ah, bah tout s'explique.
Non, que voulez-vous dire, mon stagiaire?
Oui, la seconde étape du système de stage. On en a parlé hier.
Je ne savais pas à quoi vous faisiez allusion et je ne le sais toujours pas.
Mais je croyais que M. Wilcox...
Oui, je vous ai écrit à ce propos.
La lettre a dû se perdre.
Mon Dieu, comme ça, vous n'attendiez pas M. Wilcox ce matin?
Non. Je ne l'attendais ni ce matin, ni aucun autre matin.
Et voyons, mais pendant les vacances, je crois que vous... Ah oui, vous étiez absente à ce moment-là. M. Wilcox a écrit au président pour suggérer qu'il y ait un suivi au système de stage. Il avait été si impressionné apparemment par l'expérience qu'il estimait nécessaire de la poursuivre en sens inverse, pour ainsi dire.
Oui, à mon tour d'être votre stagiaire pour une fois. Après tout, il s'agit d'améliorer les relations entre l'industrie et l'université. Et il faut que ça aille dans les deux sens. Dans l'industrie, nous avons un tas de choses à apprendre, nous aussi.
pas question.
Eh bien, c'est parfait.
J'ai dit, je ne marche pas.
Pourquoi cela?
Monsieur Wilcox sait très bien pourquoi.
Non, je ne sais pas pourquoi.
Mais ce n'est pas juste envers les étudiants, avec les examens qui arrivent. Il assisterait nécessairement à tous mes cours.
Je me ferai petit comme une souris, je ne vous gênerai pas.
Mais je ne crois pas que les étudiants y verraient un inconvénient, Robbins. C'est qu'un jour par semaine, après tout.
Un jour par semaine? Je suis étonnée que Monsieur Wilcox puisse se permettre de quitter son usine une journée entière. Je croyais qu'il était indispensable.
Les affaires tournent très bien en ce moment. J'ai pas mal de jours de congés à rattraper.
Si Monsieur Wilcox accepte de consacrer ses congés à ce projet, je pense vraiment que... Enfin, le président est absolument enthousiaste.
Je n'ai pas tellement le choix, si je comprends bien.
Très bien. Alors, je vous laisse dans les mains expertes de Robin, Monsieur Wilcox. Métaphoriquement, on s'entend.
Je trouve que la manœuvre est un peu sournoise.
Que veux-tu dire ?
Tu ne vas tout de même pas me faire croire que ça t'intéresse vraiment de voir comment fonctionne un département d'anglais au sein d'une université ?
Eh ben, si, ça m'intéresse beaucoup. T'as lu tous ces livres ?
Quand j'ai débarqué chez Pringle, tu as manifesté un souverain mépris pour tout le travail que je faisais.
J'avais des préjugés. C'est fait pour ça, le système de stage, non ? Pour vaincre les préjugés.
Je crois plutôt que tu as tramé tout ça pour me revoir.
Je veux voir ce que tu fais. Je ne demande qu'à apprendre. J'ai lu tous ces livres dont tu as parlé. Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent.
Et ? Qu'en as-tu pensé ?
Jane Eyre, ça allait, même si ça traîne un peu en longueur. Avec Léo du Hurlevent, j'étais toujours perdu. Je ne savais jamais qui était qui.
C'est voulu, bien sûr.
Ah bon ?
Oui, les mêmes noms réapparaissent constamment, en permutations diverses et sur plusieurs générations. La difficulté engendre le sens. Ça oblige le lecteur à travailler plus dur.
Mais la lecture, c'est tout sauf le travail. C'est ce qu'on fait quand on rentre chez soi, pour se détendre.
Ici, la lecture est un travail. La lecture est une production. Et ce que nous produisons, c'est du sens. Bon, c'est ma séance de séminaire des 10 heures.
C'est à 10 heures que tu commences à travailler habituellement ?
Mais je n'arrête pas de travailler. Quand je ne travaille pas ici, je travaille chez moi. Ce n'est pas l'usine ici, tu comprends ? On ne pointe pas à l'entrée et à la sortie. Bon, assieds-toi là, dans ce coin, et fais-toi aussi discret que possible.
Sur quoi va porter cette séance de travail ?
Tennyson. Tiens, prends ça.
Merci.
Bon, entrée ?
Merci. Pardon.
Je vous présente Monsieur Wilcox, directeur général de l'usine Pringle & Sons. Il va assister au cours dans le cadre du programme de l'année de l'industrie.
Bonjour.
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 Et l'on voit bien, par exemple, que le vers du poème Locksley Hall, écrit en 1835 et publié dans le volume de 1842, Laissez l'univers tourner à jamais, le long des rainures fracassantes du changement, reflète l'optimisme des victoriens à l'ère des chemins de fer, et cet optimisme, on le retrouvera dans bien d'autres poèmes.
Oui, monsieur Wilcox.
Il devait penser au tramway, pas au train. Les roues des trains ne roulent pas dans des rainures.
Tu trouves cette suggestion amusante, Simon?
Eh bien, les tramways, ce n'est pas très poétique. Vous ne trouvez pas?
On parlait de l'ère des chemins de fer dans le livre que j'ai lu.
Quel livre, Marion?
Un livre de critique. Je me souviens plus lequel maintenant.
Il faut toujours donner ses sources. En fait, c'est un point très intéressant, bien qu'assez secondaire. Lorsqu'il a écrit ce poème, Tennyson avait l'impression que les trains roulaient dans des rainures. Lorsque j'ai pris le premier train entre Liverpool et Manchester en 1830, je pensais que les roues roulaient dans des rainures. Il faisait nuit noire et il y avait une telle foule autour du train à la gare que nous n'avons pas vu les roues. C'est alors que j'ai écrit ce vers.
Il aurait pu l'écrire un peu mieux, vous ne trouvez pas?
Alors, quelle est la réponse? Est-ce un train ou un tramway?
Les deux, ou bien l'un ou l'autre. En fait, ça n'a pas tellement d'importance. Poursuis, Marion.
Attendez voir, ça ne peut pas être les deux choses à la fois. Rainure est une, comment dites-vous, une métonymie, exact?
Non, c'est une métaphore. Les rainures du changement est une métaphore. Le monde qui avance dans le temps est comparé à quelque chose qui se déplace sur des rails en métal.
Mais les rainures vous indiquent de quel type de rail il s'agit.
Exact. C'est une métonymie à l'intérieur d'une métaphore. Ou pour être précis, une synecdoque. La partie pour le tout.
Mais si j'ai une image de rainure, je ne peux pas penser à un train. Il faut que ce soit un tramway.
Qu'en dites-vous, vous autres? Hélène?
Eh bien, si Tennyson s'imaginait qu'il décrivait un train, alors c'est un train, je suppose.
Voilà un exemple de paralogisme intentionnel.
C'est une aporie. Une sorte d'aporie accidentelle. Une forme d'ambiguïté non décidable, de contradiction insoluble. Nous savons que Tennyson voulait évoquer les chemins de fer. Et comme a dit Hélène, nous sommes obligés d'en tenir compte. Mais nous savons aussi que les trains de chemin de fer ne roulent pas dans des rainures. Et rien de ce qui roule dans des rainures ne semble constituer une métaphore adéquate de notre thème. Comme a dit Simon, les tramways ne sont pas poétiques. L'esprit du lecteur est donc continuellement dérouté tandis qu'il cherche à dégager le sens de ce vers.
Est-ce que je pourrais emprunter le livre?
Bien sûr, mais pourquoi?
J'ai pensé que si je le lisais un peu avant le cours, j'aurais mieux de quoi il est question la semaine prochaine.
Oh, mais nous ne ferons pas Tennyson la semaine prochaine. Ce sera Daniel Deronda, je crois.
Tu veux dire que t'en as fini avec Tennyson, c'est ça?
Oui, du moins pour ce qui concerne ce groupe.
Tu leur as même pas dit s'il était optimiste ou pessimiste.
Ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'il faut penser.
Alors comment veux-tu qu'ils apprennent les bonnes réponses?
Il n'y a pas de bonnes réponses à de telles questions. Il y a simplement des interprétations.
À quoi ça rime alors? À quoi ça sert de passer toute une journée à discuter des livres si on n'a rien appris au bout du compte?
Mais si, on a appris une chose. On sait au moins que le langage est un médium infiniment plus perfide et plus instable qu'on ne l'imaginait.
Ça te suffit comme ça?
C'est déjà beaucoup pour quelqu'un comme toi. Tu veux emprunter Daniel Deronda pour la semaine prochaine?
Qu'est-ce qu'il a écrit?
Ce n'est pas un écrivain, c'est un livre. Écrit par George Eliot.
C'est un bon écrivain au moins, ce type-là?
Ce type-là était une femme, en fait. Tu vois comme le langage est instable. Mais pour te répondre, oui, très bon. Tu veux échanger Daniel Deronda contre Tennyson?
Je les prends tous les deux. Il y a de bonnes choses dans Tennyson. La femme est un homme en réduction. Et tous tes désirs, à côté des miens, ne sont que lune par rapport au soleil et qu'eau par rapport au vin.
J'aurais parié que tu allais boire Locksley Hall comme du petit lait.
Ça touche une fibre sensible chez moi. Pourquoi t'as pas répondu à mes lettres?
Parce que je ne les ai pas lues. Je ne les ai même pas ouvertes.
C'est pas très gentil.
Je savais parfaitement ce qu'elles contenaient. Et si tu as envie d'être idiot et sentimental et de me vomir du Tennyson à la figure, j'annule tout de suite la deuxième partie du système de stage.
Je peux pas m'en empêcher.
pense sans arrêt à Francfort.
N'y pense plus. Fais comme si ça n'était jamais arrivé. Tu veux du café?
Tu vas pas me faire croire que ça voulait rien dire pour toi?
C'était une aporie. Un sentier impraticable.
Ouais, et je me suis retrouvé coincé sur une corniche. Je peux plus ni avancer, ni reculer.
Je regrette, Vic. Tu vois quand même bien qu'on est très différents, toi et moi. Nous venons de deux mondes différents.
Mais je peux changer. J'ai déjà changé. J'ai lu Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent. J'ai fait enlever toutes les pin-up à l'usine.
Tu as fait quoi?
On a fait un grand ménage. J'en ai profité pour faire enlever les pin-up qui étaient sur les murs.
Ils vont pas tarder à en mettre d'autres, j'imagine.
J'ai demandé au syndicat de mettre ça au vote. Les chefs d'atelier n'étaient pas très chauds, mais les Asiatiques étaient massivement pour. Et ils sont un peu prudes, hein, tu comprends?
Eh bien, je suis très impressionnée.
Elle lui fit un grand sourire en guise de bénédiction. Ce fut là son erreur.
Robin, donne-moi au moins une chance.
Mais lève-toi, idiot! Monsieur Wilcox vient de laisser tomber son crayon. Marion, tu peux nous aider à le retrouver?
Oh, je suis désolée, mais j'ai un cours. Je suis revenue pour chercher mon sac.
Bon, c'est bon, prends-le.
Excusez-moi.
Allez, ça suffit comme ça.
Pardonne-moi, je me suis laissé aller.
Non, va-t'en, je t'en prie. Je vais dire à Swallow que j'ai changé d'avis.
Permets-moi de rester. Ça arrivera plus.
Je ne te fais pas confiance. Je crois que tu es un peu fou.
Je te promets.
Plus jamais d'allusion à Francfort?
Non.
Plus jamais de sérénade?
D'accord.
Viens, Vic. On va aller prendre un café.
C'était Jeux de société de David Lodge, dans une adaptation de Juliette Eman. 10e et dernier épisode. Traduction Yvonne et Maurice Couturier. Avec Féodor Atkin, le narrateur. Sophie Guédon, Robin Penrose. Philippe Bautier, Vic Wilcox. Gabriel Ledose, Philippe Swallow. Véronique Lechat, Marion, une étudiante. Vincent Bramoulet, Simon, un étudiant. Et les voix de Marlène Goulard, Hélène Bressian, Marion Trémontel, Hélène Rancurel, Clémence Boxis, Sébastien Depommier, Antoine Prudhomme, Pierre Sabrou et Paul-Antoine Veillon. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Assistance technique et montage, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Jeux de société de David Lodge est publié aux éditions Rivage.